Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La semaine dernière, je vous ai expliqué que le Christ avait été la parole, l'Éternel ou le Yahvé, le Jéhovah, de l'Ancien Testament, qui avait décidé de se dépouiller de sa divinité et de sa gloire afin de mourir pour l'humanité. Les deux membres de la famille divine, qui sont des êtres spirituels, possèdent la vie inhérente en eux, la vie éternelle. Voilà pourquoi notre Sauveur devint temporairement un être de chair, vivant sur la terre et sujet à la mort. L'apôtre Matthieu écrit dans son évangile : « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Le Christ était Dieu avant de naître comme un simple homme. Il est venu parmi les hommes et a vécu dans la chair, afin de pouvoir mourir pour tous. Lui, qui avait créé toutes choses, voulait mourir pour toute l'humanité en accord avec celui qui allait devenir son Père. Si Jésus n'avait jamais été qu'un être humain, si auparavant il n'avait pas été Dieu, sa mort n'aurait payé l'amende encourue que par un seul homme, et il n'aurait pu donner la vie éternelle à tous ceux qui acceptent de vivre selon le mode de vie décrit dans la Bible. Mais son but était de sauver l'humanité et de la réconcilier avec son Père. Seul Dieu pouvait obtenir ce résultat, car il est le Créateur. Sa vie valait plus que la vie de tous les êtres humains réunis. Paul déclare « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôtent les péchés. » C'est pourquoi Christ, après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi », il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté ». Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il ajoute, « Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » La mort est entrée dans le monde par un homme, par Adam, mais c'est aussi par un homme, non par un Dieu qui aurait gardé sa divinité, par Jésus, que la résurrection des morts est rendue possible. Adam, le père de la race humaine, a introduit le péché dans le monde, mais depuis Adam, tous ont péché. C'est donc toute la descendance d'Adam qui doit payer le salaire de ses péchés, et à cause des transgressions de chaque homme, ce salaire, cette amende, ne pouvait être payé que par Jésus qui avait été le Créateur. À cet effet, la seule possibilité était que Yahvé, l'Éternel de l'Ancien Testament, celui qui créa toutes choses pour le Très-Haut, vienne dans la chair et qu'il meure pour les péchés du monde. C'est ainsi qu'il se dépouilla de sa divinité et revêtit la nature humaine, devenant sujet à la mort. Mais il n'avait plus sa divinité. Et c'est donc une erreur de croire qu'il était Dieu lorsqu'il était sur terre. Avant sa résurrection, il resta dans le tombeau 3 jours et 3 nuits. Pendant ce temps, Jésus était mort, bel et bien mort. Sa mort n'aurait pas été possible s'il avait gardé sa divinité, car la Bible nous dit que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Au cours de sa vie terrestre, Jésus dut vaincre la tentation, mais néanmoins il a connu l'attirance réelle qu'elle exerce et il a su lui résister. Il demeurait proche de son Père et se souvenait de ce qu'il avait été avant de naître dans la chair. Lorsqu'il était âgé de 12 ans, il se rendit à Jérusalem avec ses parents. Sur le chemin du retour, constatant qu'il manquait, ses parents revinrent sur leurs pas et le trouvèrent assis dans le temple, au milieu des docteurs. À sa mère, angoissée, il demanda « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Il fait allusion ici non à Joseph, son père nourricier, mais au Très-Haut, à son Père céleste. Il connaissait donc les raisons de sa venue sur la terre, et se souvenait de sa gloire passée. Il lui était possible d'imaginer et d'éprouver à l'avance les souffrances qu'il allait endurer avant de mourir, car n'oubliez pas que c'est lui qui avait inspiré les prophéties, y compris celles qui décrivent son supplice. Quand Jean-Baptiste rencontra Jésus, il déclara « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voilà l'agneau de Dieu. » Paul ajouta « Christ, notre Pâque, a été immolé. » L'agneau de la Pâque avait été immolé à l'époque de l'Ancien Testament, avant le grand départ d'Égypte, afin que la mort puisse épargner les premiers-nés des Israélites. Mais pourquoi notre Sauveur dut-il subir toutes ces horribles souffrances avant de mourir? Lisons quelques prophéties qui s'y rapportent et révèlent les raisons de ces souffrances que nous oublions trop souvent. Ésaïe écrit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tontent. Il n'a point ouvert la bouche. De même qu'il a été un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De son côté, David prophétisa sous l'inspiration divine, « Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles, ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent. Ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Dès son arrestation, Jésus sera lié, bousculé, frappé. On lui crachera à la figure. Son corps sera roué de coups de poing, de coups de pied, de coups de bâton, et il sera hué, injurié, insulté. Vous pouvez vous imaginer ce qui s'est passé tout au long du chemin qui devait le conduire chez Anne et chez Caïphe. Marc relate ce qui suit alors que Jésus est chez Caïphe. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Et ce supplice se poursuivra pendant toute la nuit jusqu'à ce qu'il soit conduit chez Pilate. Là, on lui mettra une couronne d'épines sur la tête, en frappant avec un roseau pour bien l'enfoncer. Déjà, vous pouvez imaginer la douleur ressentie par le supplicié, et ce n'était qu'un début. Commencez-vous à comprendre pourquoi Ésaïe écrivit « Il a été pour beaucoup un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré. » Plus tard, il subira complètement dévêtu la flagellation romaine qui était considérée comme l'antichambre de la mort. Le fouet formé de plusieurs lanières, au bout desquelles étaient fixés des os brisés, des maillons de chaîne ouverts, des pointes métalliques, étaient conçus pour déchirer et arracher les chairs qui volaient dans toutes les directions. Aucune partie du corps n'était épargnée. Taire les détails horribles de ce supplice n'en efface pas la réalité pour autant. Il s'agissait d'un véritable carnage, d'un véritable bain de sang, d'une flagellation inhumaine. Les os devenaient apparents. Le corps n'était qu'une plaie. La prophétie avait eu raison d'annoncer « Mes forces m'abandonnent, je pourrai compter tous mes os. » Vint ensuite la crucifixion. Le supplicié était allongé sur le bois, les bras au-dessus de la tête, et de gros clous étaient enfoncés, non dans la paume des mains, car la chair se serait rapidement déchirée sous le poids du corps, mais dans les poignets, où, là, il lésait le nerf médian, provoquant une douleur plus intense qu'une névralgie faciale ou une sciatique, lors de chaque mouvement. Ensuite, c'était au tour des pieds, en prenant soin de laisser les jambes fléchies. En effet, les bras relevés provoquaient des crampes et rendaient la respiration difficile. Pour soulager ces crampes et respirer, le condamné devait prendre appui sur ses pieds et tirer sur ses poignets pour remonter le corps, et toutes les fois, il aggravait ainsi les lésions des pieds et des poignets. Ces bouffées d'air s'obtenaient au prix d'une souffrance atroce, jusqu'à l'agonie et la délivrance par la mort. Les souffrances du Christ commencèrent dès son arrestation, et son agonie dura de 9 heures le matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi, où un coup de lance dans le côté mettra fin à sa vie. Le sacrifice suprême, mettant fin au sacrifice d'expiation de l'Ancien Testament, était accompli. Christ, notre Pâque, dont la mort était nécessaire, avait été immolé. Mais pourquoi toutes ces souffrances? Ésaïe répond à cette question. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par son sacrifice personnel et volontaire, le Christ mit fin à la loi des sacrifices. C'est pour cela que les symboles de la Pâque ont été changés. L'apôtre Paul écrit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai annoncé, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. » Le sacrifice du Christ n'annule pas la grande loi de Dieu, mais uniquement la loi des sacrifices donnée après le Sinaï. La Pâque doit être prise en mémoire de ses souffrances et de sa mort. C'est un mémorial, un anniversaire à observer une fois par an, à l'heure et au jour fixés par la Bible. Voilà ce que doit être l'observance de la Pâque qui tombe au cours du 14e jour du premier mois de l'année sacrée. Elle rappelle les souffrances et la mort du Christ. C'est une fête annuelle à observer à perpétuité. Les Pâques, quant à elles, ne sont pas mentionnées dans la Bible. Leur origine remonte bien avant le christianisme, et si vous souhaitez des détails sur l'origine des Pâques, demandez notre étude sur le sujet. Vous la recevrez gratuitement et sans engagement de votre part. Souvent, les gens parlent de l'amour de Dieu, mais mesurent-ils jusqu'à quel point de souffrance le Christ est allé dans son amour pour toute l'humanité? Dans sa lettre à Tite, l'apôtre Paul écrit « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Et Paul ajoute « Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. »